Les années précédentes, ils n'avaient pas conscience. Moi, je suis totalement perturbé par cette phrase. Parce que, en fait, je te rappelle que dans les années précédentes, il y avait des joueurs du calibre de Thiago Motta, de Zlatan, on a eu du Messi, du Neymar, il y a Gianluigi Buffon qui était dans les buts, enfin, des grandes stars internationales. Mais non, ils étaient pas du tout,
ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils pouvaient faire.
Et par contre, cette année, ils ont conscience. Alors,
je remontais pas aussi loin. Je parlais vraiment depuis l'arrivée de Messi, etc. Évidemment, et avant, le PSG faisait du football, mais on a perdu ce sens-là du football quand il y a eu l'arrivée de Messi, entre autres.
Jouba, je suis désolé, je te coupe, Jouba, excuse-moi, mais tu sais que la meilleure période du Paris Saint-Germain, ça a été l'année dernière en première partie de saison avant la Coupe du Monde, où le Paris Saint-Germain joue à un niveau exceptionnel. Hein.
Paris Saint-Germain de Galtier.
Le plus important pour le PSG, c'est pas la première partie de saison. C'est
après, il s'est passé ce qui s'est passé derrière. Mais tu vas pas me dire qu'ils avaient pas conscience, Jouba.
Le plus important, ça reste la Ligue des Champions.
Ouais.
C'est le seul réel objectif qu'ils doivent atteindre la Ligue 1.
Il n'a pas tort, là, Jouba.
Ouais, mais le Final 8, ils étaient en finale.
Ouais.
Ils n'avaient pas conscience.
Ça remonte à 4 ans.
Ça remonte à 4 ans. Mais j'ai déjà dit sur ce plateau qu'il y a des écuries européennes qui sont installées depuis des années et qui sont supérieur pour l'instant.
Ouais. Jouba, on termine avec Jouba. On termine avec toi, Jouba, avant de retrouver Nasser.
C'était vraiment sans aucun enjeu. Il y avait un enjeu, effectivement, mais je veux dire sans aucune pression. Ils n'avaient pas cet aspect-là. Ça se jouait sur un très court laps de temps. Donc, ils avaient vraiment l'aspect footballistique en tête. Avant, excusez-moi, mais après ce Final 8, c'est reparti dans des dérives marketing avec l'arrivée de Messi. Le c'était de la paillette. C'était on se montre, on ne sortait jamais Neymar. Messi, parce que c'était eux qui vendaient des maillots, ils avaient une autre dynamique en fait. Et là,
ce qui me dérange, je suis désolé, Jouba. Moi, il y a une phrase que tu as eue que je peux pas entendre parce que je suis un amoureux du football et dire que tu te fous du football quand tu fais venir Messi, Neymar dans ton club, que tu as Verratti dans ton club ou d'autres joueurs de ballon comme ça, c'est justement être amoureux du football. Tu peux pas te dire amoureux du football et dire que Lionel Messi, Neymar ou Verratti sont des mauvais joueurs ou des joueurs qui n'en ont rien à foutre du football. Je suis absolument désolé.
Parce que quand tu fais venir Messi et Neymar, tu fais venir des joueurs qui font partie des 5 meilleurs joueurs du monde.
Oui, mais attends, Messi, t'a fait rêver au PSG?
Ouais.
Bah oui, il y a eu des, moments.
Bien sûr que oui.
Il y a
eu des moments. Alors, je te dis pas que, on en attendait pas plus. Je te dis pas que, il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais s'il n'a pas fait une mauvaise, je suis désolé de te dire qu'il n'a pas fait
un mauvais passage.
Il n'a pas fait un mauvais passage au Paris Saint-Germain. Voilà, mais.
Le gars, il faisait des grands ponts, des petits ponts face à des joueurs de Ligue 1. C'est pas exceptionnel, excusez-moi. Moi, je sais pas là-dedans que je
l'avais. Eh bah, vas-y, Jouba, vas-y, mettre des grands ponts à des joueurs de Ligue 1.
Ouais. Non, mais moi, je suis pas
mal. Non, mais
autour de Messi, quoi.
Ouais.
Moi, je suis désolé, Jouba. Bilou.
Ouais. Mais oui.
Moi, c'est mon point de vue.
C'est le point de vue de Jouba. Et on l'entend et on l'écoute. Oui, c'est ça, Jouba.
C'est vraiment. Là, il y a un aspect sportif qui est conséquent avec l'arrivée, en plus, pour une fois, d'un vrai coach avec un parcours incroyable. Donc là, ils sont dans le monde foot, quoi.
Eh ben, on va voir. Jouba, le pronostic de ce soir. Allez, Real Sociedad Paris Saint-Germain.
Un 2-1.
2-1. Pour qui, Jouba?
Pour le PSG.
Un grand merci, Jouba, qu'on pourra retrouver, on l'espère. Merci, vraiment. Toujours joyeux, le Jouba. On va retrouver Nasser au 01 53 48 3000. Nasser va nous donner un peu cette température. Et oui, le Bayern de Munich rencontrera dans le second match, excusez-moi, ce soir, 8e de finale retour, la Lazio de Rome. Hein, Nasser, envoyé spécial du côté de l'Italie, mais aussi amoureux du football français. Bonsoir, Nasser.
Bonsoir à tous.
Comment ça va, Nasser?
Ah, quel plaisir encore, quand c'est la Ligue des Champions, on met la cravate, vous le savez.
Ah,
j'ai failli la mettre.
Si on n'est pas ce soir à l'Allianz, on le sait qu'on met toujours la cravate pour parler de la Ligue des Champions, c'est obligé.
Justement, c'est obligé, le PSG, victoire obligée.
Alors, concernant le Paris Saint-Germain, vous le savez, le Paris Saint-Germain est déplacé quand même 12 fois en Espagne et a ramené que 5 victoires à chaque fois qu'ils se sont déplacés en Espagne. Donc, il faudra quand même faire attention malgré tout au stade d'Anoeta parce qu'ils vont quand même jouer leur va-tout et essayer, pourquoi pas, de revenir dans la partie. Les premières minutes vont être sacrées. Je viens de voir la composition des deux équipes. C'est vrai que l'équipe de la Real Sociedad était mal en point ces dernières semaines, mais ça reste une équipe qui joue avec son cœur et qui vient du Pays Basque, la plupart, notamment, je pense notamment à Mikel Merino au milieu de terrain, qui pourra
pas
essayer d'apporter à cette équipe de la Sociedad. Et puis c'est une équipe qui a l'habitude quand même avec, je vous le rappelle, Reynald Denouex, qui avait fait une bonne participation en Ligue des Champions.
Ancien Nantais, c'est ça. Nasser, on a Soufiane qui nous écoute de très 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 loin. Soufiane, notre consultant, depuis Bali, hein. Et lui, il nous dit, ça va pas faire plaisir à Solal, hein. Et il nous dit 2-0 pour la Real Sociedad. Eh oui, comme un peu retrocé. Attention, Nasser, attention.
Oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut. On est peut-être à un tournant. Attention, mesdames, messieurs. Je vais vous dire, on est à un mois de mars un peu particulier.
Alors pourquoi, Nasser?
Comment?
Pourquoi, Nasser? Un peu particulier.
Mais déjà, pourquoi? Parce que déjà, bon, c'est un match qui va donner le tempo. S'il se qualifie, bon, on attendra les quarts de finale tranquillement et on verra bien. Mais s'ils sont éliminés, alors là, ça va sentir la poudre, je peux vous le dire.
C'est
très, 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 très fort du côté de Paris. Parce que, vous le savez, l'Olympique de Marseille viendra le 31 mars prochain rendre visite au Paris Saint-Germain.
Je crois que c'est l'inverse. C'est le PSG qui descend à Marseille.
C'est au Vélodrome.
Je crois que c'est le PSG qui descend à l'OM.
Bah voilà, c'est au Vélodrome. En plus, c'est au Vélodrome.
Alors,
vous comprenez bien que Marseille va les attendre de pied ferme pour essayer, pourquoi pas, d'enfoncer le clou. Alors, en plus que M. Mbappé a décidé de déclarer à la presse qui partait du côté du Real Madrid, eh ben il y a la pression. Il y a la pression au Paris Saint-Germain. Ça va être chaud.
Tu vois, Nasser,
ça va être très chaud.
Tu disais que s'il se qualifie, ça aurait été sur une forme de logique, entre guillemets, parce qu'on dit, voilà, le Paris Saint-Germain par rapport à la Real Sociedad, ils sont au-dessus. Oui. Mais s'ils sont éliminés, ça va être la tempête nucléaire, je sais pas quoi, etc. Mais c'est ça qui me dérange un petit peu, tu vois. C'est que, à ce moment-là, si le PSG se qualifie, on dira pas, peut-être que c'est logique, mais ils ont mis les ingrédients, ils ont pas été dans la facilité.
Ça dépend le match qu'ils font.
Ouais. Mais tu vois, en fait, s'ils se qualifient, peu importe la rencontre.
Avec la manière. Alors qu'on leur demande.
Parce qu'à chaque fois, ils remettent 2-0.
Parce qu'à chaque fois, on dit,
Mathieu, on va retrouver
si PSG gagne contre ces équipes un peu moins fortes, c'est logique. Par contre, s'ils perdent, c'est un désastre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de fond, en fait.
On écoute Nasser, on va revenir à Benji.
Mathieu, avec tout le respect que j'ai pour toi, on va chiffrer la fin du bal. Avec le Paris Saint-Germain, on va arrêter de rigoler. Maintenant, c'est la victoire, la victoire. Pourquoi les grandes équipes gagnent? Le Real Madrid, c'est la victoire. Et jusqu'au bout, ils veulent gagner tous les trophées. Au Paris Saint-Germain, on a eu les plus grands joueurs de l'histoire du football qui sont venus porter les couleurs du Paris Saint-Germain. D'accord? Et là, ce que je vois encore il y a quelques jours, c'est vivement le départ d'Mbappé au 30 juin. Alors excusez-moi, je vais vous dire, à un moment donné, je veux bien que on me dise le Paris Saint-Germain,
bien sûr.
Et ça suffit.
Ça suffit. Là, il s'est énervé là.
Moi, je suis d'accord partie et je.
Il n'y a pas d'âme dans ce club. Excusez-moi. Il n'y a pas d'âme. Je suis dur avec le PSG. Je suis obligé d'être dur.
Quand vous voyez
les dépenses qu'ils ont eues, les dépenses qui ont été faites par le président et par les Qataris. Depuis qu'ils sont arrivés. Vous avez eu la chance d'avoir Neymar. Vous l'avez sifflé. Vous avez ramené Messi. Vous l'avez sifflé. Mbappé, on va lui dire quoi? Vivement ton départ le 30 juin. Mais écoutez, excusez-moi. Bien sûr que je suis dur. Et ce déplacement à la Sociedad, sentir le roussi si la Sociedad marque le premier et ça peut faire mal. Je peux me tromper.
Si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas contre une équipe qui a eu une victoire sur ses 9 derniers matchs de championnat en Espagne, oui, ça me pose un souci, parce que c'est une équipe qui n'a pas la dynamique, c'est une équipe qui a eu du composé avec beaucoup de blessures, avec certains qui reviennent, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est sûr que si le Paris Saint-Germain fait un faux pas contre une équipe qui a eu beaucoup de mal à marquer pendant une période en championnat, où ça va un petit peu mieux, mais où les résultats ne suivent pas, parce que désormais, d'un point de vue défensif, ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc tu te retrouves dans une équipe qui fait une victoire en 9 matchs, donc c'est même 2 victoires si on prend sur les 10 dernières rencontres. 10 rencontres, ils font 2 victoires. Donc t'imagines, si tu prends un 3-0 ce soir à
Saint-Sébastien. Je suis d'accord avec vous que s'ils perdent ce soir, s'ils sont éliminés ce soir, c'est catastrophique. Par rapport à l'adversaire, par rapport à la situation, par rapport à la situation de l'adversaire. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que s'ils gagnent, ce qui me dérange, c'est qu'on va dire non. Ah bah c'est normal.
Mais non, ça dépend la manière dont le Paris Saint-Germain va assurer sa qualification. Si le Paris Saint-Germain a une copie qui est rodée ou c'est lissé, ou si le Paris Saint-Germain techniquement quelque chose de cohérent avec le Paris Saint-Germain qui fait un clean sheet, un Paris Saint-Germain qui va s'imposer 3-0 ce soir, et ben tu diras pas que le Paris Saint-Germain c'est normal. Tu diras que une bonne rencontre. Allez, une bonne rencontre. Retour et a été cohérent sur un aller-retour de Ligue des Champions.
Point barre. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Paris Saint-Germain fait une super prestation, demain, tu vas venir, tu vas me dire. Ah ouais, le Paris Saint-Germain, franchement, ils ont été nickel. Alors, ou alors tu vas me dire, mais ouais, mais ils ont été nickel, mais il faudrait qu'ils montrent la même chose face à une équipe de plus haut standing.
Mathieu, allez, ce soir, ils nous écoutent encore. C'est Soufiane avec Malik. Hein. Soufiane, Malik et Yvan, les trois hein, sont ensemble et ils disent que Mathieu, qu'il arrête, il va trop loin, il est trop sévère avec le Paris Saint-Germain. Nasser a totalement raison. Voilà, ça c'est pour
pas
les.
Moi
la...
qui ai été le plus sûr avec le
Belgique. Ah bah, c'est voilà, c'est la réaction.
Je voulais juste vous dire que je vous aime tous autour de la table et vous le savez, et pour les auditrices et les auditeurs qui sont supporters du Paris Saint-Germain, bien entendu qu'on souhaite qu'ils gagnent face à la
Sociedad,
parce qu'on est toujours derrière une équipe française,
bien sûr.
Mais vous comprenez que quand je vois une banderole sur le meilleur joueur du monde, Mbappé, en lui disant vivement son départ, et ben j'ai l'impression que ces supporters, enfin, du moins une partie des supporters, ne méritent peut-être pas les plus grands joueurs du monde à Paris. Voilà, c'est juste ça en fait.
Nasser, le pronostic de ce soir, Real Sociedad Paris Saint-Germain.
Je vais pour mettre un peu de piment, ouverture du score pour la Real Sociedad de Kubo. Et puis après, bien entendu, encore une fois, Mbappé qui revient et qui met ce petit but un partout. Et ça sera, et on en restera là.
On a la bise d'Anthony pour Nasser et toute l'équipe de Tamsport Beurre FM. Un grand merci Nasser. Bonne Nasser là.
Merci.
Bonne Nasser.
Ciao
Nasser. Allez, on va retrouver au 01 53 48 3000 avant de partir du côté de la région des vallées bavaroises. Excusez-moi, Bayern de Munich face à la Lazio de Rome. C'est moi qui aimerais justement réagir avec l'équipe de Tamsport concernant le Paris Saint-Germain. Ça fait sourire encore une fois. Mathieu, on ne sait pas pourquoi. Il est assez sévère.
Parce que Mohamed a décliné près de moi. Parce que Mohamed, son prénom, ça y est, je suis juste.
C'est le Duc Moha. Bonsoir, comment ça va, Moha?
Bonsoir, Bilal, ça va très bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir,
Mohamed, bien sûr.
Et tout le monde devait être, c'est unanime.
Franchement, moi qui suis vraiment fier d'être sur le plateau de Beurre FM à chaque fois, là, je suis heureux de ne pas être là quand il y a Mathieu. Les avis sont systématiquement catastrophiques. Moi, je vais me
remercier. Merci de le dire.
Évidemment, tu plaisantes, j'espère.
Oui, plaisante.
Je vais me ranger personnellement du côté de l'expérience de M. Nasser.
Ouais. Alors pourquoi?
C'est vrai, il faut apporter un peu de nuance dans tout ce problème-là. À la fin du match, s'il y a un résultat qui est négatif pour le Paris Saint-Germain, il y aura des éléments pragmatiques pour justifier la situation. T'as des mecs comme Beraldo, Nuno Mendes qui revient de blessure, Barcola qui n'a pas vu les huitièmes de finale de sa vie. Il y aura des éléments, tu vois, un peu difficiles pour le Paris Saint-Germain.
Mais s'ils sont titulaires, ça veut dire qu'ils sont aptes à 100% pour jouer, non ?
Bien évidemment, ils sont aptes physiquement, mais mentalement, on n'a jamais eu l'expérience de les voir à ce niveau-là.
Ah oui, mais si tu commences à aller par là aussi...
Non, mais bien sûr.
Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu commences à trouver des excuses ?
Mais bien sûr que non, je trouve pas d'excuses, mais dans l'autre sens, Mathieu, dans l'autre sens. Quand le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain se qualifie de manière super nette, bon, on va dire de l'autre côté que c'était une équipe de la Real Sociedad qui était pas en forme et que.
Mais c'est ce que je viens de dire.
Ouais. Non, mais tu n'as jamais raison, Mathieu, sache-le.
C'est moi qui a raison.
C'est juste parce que j'ai un problème avec toi que je dis ça, c'est pas son propos. Non, mais faut mettre un peu de nuance, les gars, c'est un peu du journalisme qu'on fait
là. Bien sûr,
bien sûr. On est dans les émotions, on est des supporters du football français, du football en général.
C'est ça, tout à fait.
Journaliste, il faut mettre les faits sur le papier, tout simplement. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, s'il se qualifie pas, c'est pas forcément une faute professionnelle, c'est une équipe qui est encore en construction, à mes yeux. Mais s'il se qualifie, c'est pas forcément l'exploit du siècle. C'est la Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid qui est en pleine bourre, c'est pas un grand d'Europe forcément, avec tout le respect que j'ai pour la Real Sociedad. Maintenant, si je reviens sur un seul point dont vous avez déjà discuté, c'est le milieu de terrain et la titularisation de Fabian Ruiz. En ce qui concerne mettre le pied sur le ballon, comme tu l'as dit Benji, moi j'ai un peu un problème avec ça. Nasser a parlé de Merino, qui est le métronome de la Real Sociedad. si ce mec-là il commence à mettre du tempo et surtout de l'impact, que ce soit physique ou dans le jeu, t'as besoin d'un mec comme Ugarte qui peut répondre à cet impact-là. Et ouais. Fabián Ruiz, mettre le pied sur le ballon, c'est très bien. Mais quand la situation va être critique, je peux pas compter forcément sur lui pour gérer une situation comme ça. C'est pas forcément l'archétype Verratti.
Ouais, mais en fonction du score, t'as la capacité de pouvoir faire des changements aussi, tu vois. Non, moi, commencer avec un Fabián Ruiz, je trouve ça bien. Après, en fonction de comment la rencontre évolue, j'entends qu'un Ugarte vienne pour mettre un peu plus, peut-être, de solidité défensive.
Mais c'est ça. Mais après, ça dépend de la grille de lecture que tu as du match. Là, je pense que Enrique, comme tu l'as dit, il voulait mettre le pied sur le ballon, garder le contrôle. Et c'est une équipe malade, les gars. C'est pas le Real Madrid de 2017. Donc, on s'attend pas forcément à des vagues extrêmement violentes. Même si là, ils doivent revenir au score. Du coup, forcément, ils vont être un peu durs sur l'homme et ils vont jouer très vite. Mais là, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la jeunesse de certains postes au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont être capables de supporter une pression d'un match et surtout d'une équipe qui veut revenir au score?
En fait, le problème, c'est que j'entends ce que tu dis sur certains points, je suis entièrement d'accord. Après, sur le point où tu disais que certains joueurs, ce qui est une réalité, n'ont pas l'expérience au Paris Saint-Germain de certaines de ces rencontres, je suis pas sûr que du côté de la Real Sociedad, pardon, ils en aient beaucoup plus. Et donc, si tu donnes cette excuse pour le Paris Saint-Germain, faut aussi avoir la cohérence de se dire que la Real Sociedad n'a pas non plus. Donc pour moi, c'est pas une excuse que tu dois donner au Paris Saint-Germain.
Oui,
si ils sont titulaires ce soir, c'est que selon le coach et selon les recruteurs qui ont fait le job en amont, ce sont des joueurs qui sont en capacité pour amener le Paris Saint-Germain le plus loin possible. Et je pense que contrairement à ce que tu disais, il ne faudra pas justement dire que le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain fait une rencontre très bonne ce soir et domine cette équipe de la Real Sociedad, même si c'est une Real Sociedad qui est malade, ce sera une très bonne performance du Paris Saint-Germain avec une cohérence tactique si ça l'est. Et j'espère qu'on le dira parce que ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Donc il faudra le dire.
Bien sûr.
Non,
je on termine Moha rapidement avec le pronostic. Moha, on n'a plus trop le temps avant d'accueillir Elsa.
Le pronostic, je mise sur un 3-0 du Paris Saint-Germain et carrément. Triplé de Nuno Mendes.
Carton plein. Voilà, c'est carton plein pour Moha qu'on retrouvera cette semaine sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci Moha d'avoir composé le 0153483000. Merci. Salut, belle soirée.
Ciao.
Devant le match ce soir. Une bonne soirée à lui. Et oui, justement, on devait parler du Bayern à la Lazio. Peut-être ce match-là rapidement.
Avec Mendy. Un petit mot très rapide pour déjà mettre en avant le fait que le Bayern Munich est un Bayern qui est extrêmement malade. Aussi également qui ont encore fini faire un match nul ce week-end, qui ne vont pas gagner le titre cette saison en Bundesliga qui sera pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Donc je pense que en plus de ça ils ont perdu 1-0 match aller contre la Lazio avec un Guendouzi qui a été élu homme du match. Je pense que le Bayern va se reprendre à domicile quand même. Je pense que la Lazio, malgré le bon résultat, va avoir du mal. Et je pense que le Bayern Munich ce soir va la jouer à l'expérience face à une équipe de la Lazio qui n'en a pas à ce niveau de la compétition. Et donc je pense que on va avoir un bon match du Bayern Munich.
On verra bien.
Parce qu'ils ont les joueurs et qu'ils auront les ingrédients pour faire douter très vite cette équipe de la Lazio et prendre le contrôle du match.
Bayern Mathieu, rapidement.
Pour aller très vite, il y a rupture entre les joueurs et Thomas Tuchel et je pense que la Lazio va sortir le Bayern.
Eh ben justement, le pronostic Real Sociedad Paris Saint-Germain.
Je suis dur avec ce club-là, mais je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 4-1.
4-1. Et pour Benji?
Moi, je vais dire 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Ok, à la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive, 21h, 23h et nous, on se retrouve dès demain. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir plutôt. Pourquoi tu ris? Il rit. Ça commence bien. Bonsoir, chers amis. Bah oui, je dis bonjour à 13h. Il est 21h. Je dis bonsoir. Je ne sais plus. Moi, j'ai l'impression de ne pas être parti depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en ce lundi 29 avril. Ça y est, avril se termine déjà. Waouh! On va pouvoir se découvrir d'un fil, au moins. Voilà, quel bonheur de vous retrouver, chers amis. Vous m'avez manqué tout ce long week-end. Qu'il fut long, ce week-end. Ouais, il est long sans vous. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Sinon, je vous souhaite d'aller mieux. Eh bien, ce soir, un sujet que je vous présenterai juste après mes petites pensées du soir. Et ma première petite pensée va vers Solal. Bonsoir, Solal.
Buonasera a tutti. Honoré d'être là, comme d'habitude. C'est un honneur. Et oui, il n'y a pas d'autre mot que ça, que d'être avec toi, Vanessa, tous les soirs. Écoutez, chers amis, si vous débarquez sur cette radio à 21h le 29 février, tous les soirs, il y a Confidence. Et Confidence avec Vanessa. Vanessa qui vous parle. Vanessa qui vous écoute. Vous qui parlez, vous qui écoutez. C'est une émission qui est 100% en interaction. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ce concept? Mais c'est Confidence de 21h à 23h. Alors là, c'est le moment de noter. Attention, hein, il n'y aura pas 10 000 fois, on va le dire, pendant l'émission.
Oui, hein.
01 53 48 3000. Aussi simple que le 01 53 48 3000. Si vous voulez tout simplement avoir la chance de participer à cette émission de 2 heures, où on vous écoute, où on vous tend le micro aussi derrière votre téléphone,
oui,
pour parler de vos soucis.
Oui.
J'essaie de faire aussi bien, mais Vanessa a une liste mais qui est merveilleuse à chaque fois pour décrire aussi toutes ces choses-là qui peuvent vous passer par la tête, par l'esprit, tout simplement parce que c'est elle que vous aurez la chance d'avoir au téléphone. Je vous embrasse, chers amis.
Écoute, c'est bien dit. Voilà. Allez, au revoir. Voilà, on a toujours la bonne humeur de notre Solal. Il est à nous et on le garde. On ne le prête pas, on le garde pour nous. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous, chers amis. Alors, encore une fois, nos petites pensées du soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, l'aide du Bekoum Chfa, Inch'Allah, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà. Alors, allez, remplissez-moi ce standard. Nous sommes fin avril, bientôt mai, bientôt les vacances. Allez, on se dépêche, hein. Voilà, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vie, franchement? Si c'est pas une grande scène. Tout à l'heure, je pensais à ça. Je me disais, oui, la vie est une grande scène de spectacle. Nous sommes tous des comédiens. Voilà, des comédiens, des saltimbanques, j'ai envie de dire même. Je préfère saltimbanque que comédien. Et puis il y a les spectateurs. Les spectateurs, on les voit pas. C'est ça la règle du jeu, on les voit pas. C'est comme une salle de cinéma. La salle est noire, ou théâtre, on va dire. Théâtre plutôt, noir. Les comédiens qui sont sur scène ne voient pas les spectateurs puisque la salle, elle est éteinte. Il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas? Par contre, la lumière, elle est sur les comédiens et tout le monde voit les comédiens et les regarde. Donc, nous sommes les comédiens. Le soleil nous éclaire. Et les spectateurs, je ne sais pas qui ils sont, hein, les spectateurs, on peut les appeler comme vous voulez, qui nous regardent d'ailleurs d'une autre dimension. Voilà. Eux sont derrière le rideau, dans l'ombre, et ils nous regardent. Voilà, à délire. Peut-être j'ai raison, hein. Alors, on y va. J'ai un sujet à vous proposer, un sujet, ma foi, qui est hyper d'actualité. Alors, c'est suite à... Alors, j'ai eu l'info, etc., comme peut-être certains d'entre vous. Y a un livre qui est paru... je sais plus quand, je vais vous dire quand. C'était vendredi, voilà. Vendredi dernier, il est sorti ce livre. Alors, donc, je crois qu'ils étaient trois auteurs, hein, trois, ils sont bien trois pour l'écrire, je crois, hein, si je ne me trompe. Donc, j'ai lu un petit peu très vite, pas le livre, pas encore, je vais le lire, bien sûr, je vais me le procurer, mais... Alors, c'est « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Bon, alors, donc, c'est pas... Ça s'adresse pas forcément... Faut pas prendre ça au premier degré, vous allez comprendre, hein. Voilà, alors, donc, moi, j'en ai fait un sujet ce soir... j'ai tiré quelques... Bon, j'ai regardé des articles qui parlent de ce livre, etc. Et voilà ce que j'ai un peu trouvé, chers amis. Alors, écoutez bien. Alors, ce livre qui est sorti, donc, vendredi dernier, la France, tu l'aimes. Tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est pas tu l'aimes ou tu la quittes. Attention, pardon, le lapsus. Hein. Tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est pas mal. Tu l'aimes la France, mais tu la quittes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, on a entendu la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ben non. Les auteurs, là, ils ont été très fins. Vraiment bravo. Et je pense que ce livre mérite d'être lu. Voilà. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Alors, qu'il revient sur les raisons qui poussent certains musulmans à quitter la France. Alors, il y a une des auteurs, enfin une autrice, une, en tous les cas, qui a participé à la, à rédiger ce livre, à la rédaction de ce livre, qui dit, qui parle d'islamophobie, d'atmosphère, discrimination. Pourquoi une partie de l'élite musulmane quitte-t-elle la France ? Des Françaises et des Français de confession musulmane bien installés songent de plus en plus à émigrer. Ces citoyens sont banquiers, fonctionnaires, professeurs, dans tous les corps de métier bien sûr. Alors, tous racontent leur malaise face à la défiance qu'ils pensent susciter encore plus depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas en Israël, et dénoncent une atmosphère suffocante, une assignation ou encore un immense gâchis. Voilà. Donc, je souhaiterais vraiment, parce que c'est l'espace pour, hein, parce que vous le plaignez souvent, qu'il n'y ait pas de représentativité, de représentants, on va dire tout court, de cette communauté musulmane, hein, souvent sur les plateaux, où je vous vois tempester, etc. Mais là, vous, voilà, vous avez un espace qui est très écouté, de partout, croyez-moi, alors ça. Et donc, c'est peut-être le moment de venir, voilà, nous parler de... ben de ce que vous pensez de ben de ça quoi, enfin de cette de ce phénomène de ces musulmans qui quittent la France, qui sont nombreux, hein. Je ne sais pas si vous en avez autour de vous. Moi, je m'en rends compte. Hein. Je m'en rends compte puisque à travers les témoignages, dans Confidence et également dans les petites annonces, les gens qui revendent, qui vendent leur maison, leur voiture, leurs biens, etc. et qui disent oui parce que ça y est, j'ai décidé de partir. Pas forcément le retour au pays. Il y en a beaucoup qui retournent au pays, attention, de leurs parents, mais beaucoup aussi partent ailleurs dans le monde. Voilà, Canada, ailleurs en Europe, États-Unis, tout ça, qui partent. Voilà. Donc et autour de nous, hein, autour de nous aussi, on en a aussi qui décident. Moi, j'en connais, hein, j'en connais pas mal des jeunes, etc. Qui partent, voilà, qui décident de partir pour ces raisons justement, qui disent que bon, il y a une ambiance à travers les médias, hein, parce qu'on voit bien dans un pays quand il y a des médias qui vous stigmatisent sans répit, hein, tout le temps, et bien il y a des moments où les gens, voilà, il y a une ambiance qui ne leur plaît plus. Voilà. Alors, donc, j'ai mis en avant ce sujet, chers amis. J'espère que vous serez nombreux à venir l'aborder. Ce serait dommage, vraiment, de passer à côté. Vraiment, venez me dire ce que vous pensez. Si vous, moi-même, autour de vous, vous pouvez nous dire si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont décidé, ou vous-même, peut-être, qui ont décidé de partir. Voilà. Alors, donc... cette co-auteure dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit l'article et qui a voilà, participé à ce livre, alors qui a écrit Islamophobie d'atmosphère. Bon, c'est son, le terme qu'elle a employé, hein, qu'elle a utilisé. Elle s'appelle Alice Picard. Elle est co-auteure et chercheuse. Voilà. Alors. Je vous parlerai des personnes qui ont écrit également ce livre. Hein. J'ai pris leur nom, etc. C'est des chercheurs, des personnes... alors, c'est assez intéressant en tous les cas. Voilà. Alors, on a Kamel de Nogent. On va déjà prendre un premier appel et on essaiera de décortiquer tout cela. Bonsoir Kamel.
Oui, bonsoir Vanessa.
Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, je te remercie et toi ?
Bah écoutez, très bien, merci.
Alors Kamel, est-ce que ce sujet te parle ?
Oui, oui, bien sûr, je parle. Alors je ne suis pas personnellement concerné, c'est-à-dire moi-même, mais il y a eu un exode, moi, autour de moi. Mon cercle amical s'est complètement vidé. Parce que, bah justement, ces amis, on va dire, musulmans, alors musulmans, ou ce qui est assimilé à musulmans. parce que c'est juste que vous tout à l'heure vous disiez que c'est les médias qui stigmatisent. Oui, bien sûr que les médias stigmatisent.
Entre autres. Mais
dans la société, en fait, il y a c'est des gens. Alors, je veux le préciser, c'est des gens plutôt diplômés avec des diplômes très hauts, très importants, qui ont fait des très très grandes écoles. En fait, qui normalement sont câblés pour réussir. Mais ils sont retrouvés quelque part limités en France. Et pas qu'à cause des médias, pas qu'à cause de ce qui a été raconté, on va dire, dans les plateaux télé. Mmh. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas les promotions qu'il faut, ils n'ont pas la reconnaissance qu'il faut. Je ne sais pas, on va dire, dans un cercle de direction de grandes entreprises, bah, c'est majoritairement des gens, on va dire, la même origine ou le même type. Après, je passe, hein, y a peut-être un délire misogyne aussi, c'est plutôt des hommes blancs de la cinquantaine. Mais n'empêche, qu'est-ce qui fait que un Bakary, qui est tout aussi intelligent que les autres, ne puisse pas réussir? Et donc, en fait, oui, autour de moi, il y a eu un méchant exode à un étranger où, justement, ils arrivent à trouver leur place. Non seulement ils arrivent à trouver leur place, surtout dans des sociétés anglo-saxonnes très méritocrates, et en fait, ils arrivent même à briller. Alors, ils regrettent qu'ils soient loin de leur famille, ils sont loin de l'identité. Ben, ça reste des musulmans de France, donc l'identité française, ils y tiennent. Mmh. Mais ils sont mieux et même ils sont conscients qu'ils sont en train de donner un meilleur avenir à leurs enfants. C'est-à-dire au-delà du leur, ils disent mais oui, mon enfant grandit pas stigmatisé, mon enfant grandit dans quelque chose de pluriculturel ou pire même parce que j'ai des amis qui sont à Londres. En fait, ils acceptent les communautés. Ok, je suis communautaire. Ok, il est d'origine. Ok, je suis absent le jour de l'Aïd. Mais on n'est pas stigmatisé pour autant. Il n'y a pas la blague, il n'y a pas le petit commentaire un peu bizarre qui, en fait, de façon cumulée, finit par éroder une personne. Et donc, c'est un phénomène, mais en tout cas que je constate autour de moi. Mon cercle amical, c'est vidé au fil des années, ils sont partis. Donc, c'est Angleterre, Canada, beaucoup Canada,
oui.
États-Unis.
C'est ça. Sont nés en France, ont fait leurs études en France, sont par des diplômes, mais néanmoins ne se sentent plus à leur place, se sentent stigmatisés. Ce que tu viens de dire, je voudrais juste couper deux secondes pour lire ce que coauteurs, hein, qui s'appelle Julien Talpin, donc qui est directeur de recherche en sciences politiques au CNRS et qui est donc l'un des auteurs de cette enquête, La France tu l'aimes mais tu la quittes, qui dit l'islam est la deuxième religion de France. Il est toutefois difficile de mesurer l'ampleur du phénomène. Bon, les statistiques ethniques étant interdites en France. Bon, Julien Talpin, l'un donc des auteurs de cet ouvrage. Dit. Alors, pour autant, le directeur de recherche en sciences politiques parle d'une fuite des cerveaux. Il est relativement... Ah oui, il dit... Il dit, il est relativement certain que cela concerne plusieurs milliers de personnes et peut-être quelques dizaines de milliers, avance le chercheur. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une forme de fuite des cerveaux. La majorité des gens qui s'en vont sont des gens qui sont diplômés du supérieur, qui ont au moins un master et qui ont fait de grandes écoles. C'est une forme d'irrationalité de la société française qui a investi des ressources dans l'éducation et en même temps, on ne leur laisse pas l'occasion de contribuer à l'économie française et à la croissance.
Mais faut dire que ces gens-là, moi, je parle...
Oui, attends, ne pars pas, je te reprends juste après, elle est très courte cette petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, pardon, oui. Alors, la France n'a pas voulu de nous, les musulmans diplômés victimes de discrimination s'expatrient. Voilà le titre de Confidence ce soir, chers amis. Alors, on est avec toujours avec notre ami Kamel de Nogent.
Kamel. Donc justement, donc en fait, je pense qu'il faut insister hein, sur cette dimension, on va dire très diplômée et des gens, on va dire surqualifiés, parce que bah, en tous les cas, dans mon entourage, je prends à mon échantillon, mais c'est plutôt les gens les plus brillants, ceux qui ont fait les plus hautes études et qui ont les plus grosses capacités. Et c'est ça qui est dramatique.
C'est pour ça qu'on parle de, fuite des cerveaux. Voilà, c'est ça.
Et vous savez ce qui est dramatique. Donc tout à l'heure, vous disiez. En fait, il y a deux choses que je pourrais rajouter. Il y a un. Donc parmi ceux-là, certains enfouis, c'était eux-mêmes, c'est des fuites de cerveau de leur pays d'origine. Donc bah, je connais par exemple un couple d'Algériens qui sont venus en France pour suivre leurs études. Donc c'était déjà une fuite de cerveau. Parce qu'ils ont considéré qu'ils n'avaient pas les conditions qu'il fallait pour avoir une vie prospère en Algérie. Ils ont fait leurs études, ils ont commencé à travailler dans des entreprises, mais ils n'ont pas eu le parcours et la progression qu'ils méritaient. C'est-à-dire par rapport à comment ils se démenaient, ou par rapport, je ne sais pas moi, peut-être que des commentaires au niveau de la machine à café, ou je ne sais pas ce qui s'est passé à leur niveau. Ils sont érodés, comme je vous ai dit. Et petit à petit, et à un moment, ils sentaient un appel à Dubaï. Donc ils ont commencé d'abord par Dubaï, là ils sont en Australie. Mais ils explosent. Ils s'explosent. C'est parmi les gens les plus intelligents que j'ai eu à côtoyer, on va dire, de façon très proche. Mm-hmm. Et ça ne m'étonne pas qu'ils explosent. Mais ils n'explosaient pas en France. Et ça, d'une part, donc il n'y a pas que des gens, on va dire, nés en France, qui ont grandi en France. Bon, majoritairement, oui, c'est des gens qui sont nés en France et qui ont grandi en France, parce que la frustration, elle est encore plus grande.
Et il parle de, tu sais, j'ai lu des témoignages, et à travers les différents témoignages, je pense qu'ils sont cités dans ce livre, eh bien, certains parlent d'une forme de blocage à un certain échelon, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus évoluer, ils arrivent à un certain...
un plafond de verre, on dit un
plafond de verre, voilà, c'est ça.
Oui. Oui, complètement. En fait, comme je vous ai dit, hein, dans des cercles de direction d'entreprise, alors je vous en fais partie, hein, mais je le vois, moi-même je le constate, ce cercle, ce plafond de verre.
D'accord.
Mais effectivement, c'est compliqué, c'est-à-dire on a un peu de mal à avoir des gens d'origine, si on peut dire ça comme ça, présents. Avec de grosses responsabilités ou avoir une progression fulgurante. On peut être très talentueux et d'origine, mais on a encore en France, on a du mal à l'accepter. Et ces gens-là, je les comprends.
Je vais lire quelques exemples justement, hein, voilà. Dont un de Driss qui est d'origine algérienne, je crois. Alors, je pense qu'il est cité dans le livre aussi. Hein. Donc, Driss, qui est installé à Montréal, au Canada, il dit, ici, c'est un peu la mentalité américaine, explique-t-il. Tant que vous ramenez de l'argent, tout le monde s'en fiche. Vous pouvez afficher votre religion sans gêne. Sous-entendu, ce n'était pas le cas en France, car Driss garde une petite rancœur vis-à-vis de la fonction publique territoriale où il a commencé à travailler. Malgré mon niveau d'études, j'ai vite compris que je resterais bloqué à certains échelons, assure-t-il. Je n'étais pas discriminé, mais j'avais des remarques permanentes sur mes origines. J'ai toujours senti un regard méfiant. De la troisième génération d'une famille algérienne, il n'est pourtant pas du genre à quitter une réunion pour aller faire la prière, tu vois. Donc il n'y a rien de visible, hein. Mais il pratique le ramadan, la foi, dit-il, c'est quelque chose d'intime. En 2020, juste avec le Covid, il décide de s'expatrier au Canada et ne le regrette pas. Je travaille dans l'informatique avec de grosses responsabilités. En France, ça n'aurait jamais été possible, même pas en rêve, dit-il. C'est terrible, hein. Moi, ça m'a fait mal, hein, quand j'ai lu tous ces...
C'est des milliers, je vous promets. Je suis, on va dire, l'archétype de ces gens qui bougent, finalement. C'est des gens qui ont fait l'école avec moi, qui ont fait... On a eu un peu les mêmes parcours. Moi-même, je les comprends. Et moi-même, je suis très ami, donc je continue à être en contact avec eux. Mais je vous dis, c'est à une échelle qu'on n'imagine pas. C'est des milliers, C'est des
c'est inouï,
ils
hein.
Très, ils sont très, très, très nombreux.
Mais c'est justement,
je vous explique quelque chose. Regardez, par exemple, alors, parce que là, vous vous dites français de troisième génération. Donc, ma famille à moi, je vais parler de mon cas.
Oui.
Ma famille à moi, elle a été naturalisée en 1834.
Ah ouais?
Avec un sceau de, à l'époque, je sais plus, je crois que c'était un roi, il y avait même un sceau du roi, c'est-à-dire le décret, parce que, en fait, mes aïeux étaient, seigneurs de la terre, en fait, en gros, et c'est eux qui tenaient les registres et tout, c'était des érudits, donc ils tenaient les registres de naissance, enfin, voilà. Donc,
d'accord.
On les a naturalisés pour quelque part gouverner.
Oui.
Par délégation.
Oui.
Et donc, en termes de génération, je pense qu'on est presque dans du quatrième génération. De français.
Là,
Manuel Valls, un Nicolas Sarkozy sera considéré aux yeux de la plupart des Français, 90%, y compris les Arabes comme moi, hein, il sera être considéré comme plus français que moi. L'un a un papa hongrois, il parle avec un accent, d'ailleurs, on reconnaît de suite qu'il est d'origine.
Et
à l'étranger, il est espagnol. En fait, il est même pas. Il a été naturalisé français.
Et c'est même pas un problème.
C'est pas un problème. En fait, il y a une espèce de hiérarchie du français. En communauté, faut le dire, en société, ils vont, ces deux gars-là, mais j'ai rien contre eux. Hein.
Non, mais j'entends, je comprends où tu veux aller.
Mais vous compreniez, en fait, ils vont être considérés comme plus français que moi.
Français de 4e. C'est-à-dire que les origines, forcément.
Je paye mes impôts, mes parents, mes grands-parents ont payé leurs impôts, mais attendez, c'est assez dingue. En fait, il n'y en a aucun qui a un cas judiciaire ou quoi, mais c'est assez dingue.
Mm-hmm.
Et oui, alors oui, moi, j'arrive à plus ou moins à le vivre bien, mais je peux comprendre que ça peut générer de la frustration. C'est-à-dire que quelqu'un de troisième génération demande toujours « tu es d'où ?» Je suis du Havre ou je suis de peu importe. Et donc ça, c'est une première notion que je vous ai évoquée. Il y a la notion, on va dire, de cette fuite des cerveaux. La deuxième notion, comme j'ai dit, c'est musulman ou assimilé musulman.
Ouais.
Une Karima, une Rachida, aux yeux de la société française, elle est forcément musulmane. Même si elle n'est pas du tout pratiquante et elle a le droit.
Et même si elle n'est pas musulmane.
De ne pas du tout être musulmane. Mmh. Mais en fait, elle est assimilée. Mmh. Et elle va avoir les mêmes freins. C'est-à-dire, en fait, c'est même pas une histoire d'islamophobie. C'est-à-dire, c'est une espèce de quelque chose, mais vraiment, on est au-delà. Parce que c'est même pas un problème de religion. Mmh. Parce que sur un tel, on va supposons, allez, je ne parle pas d'une dame, parlons d'un monsieur, quelqu'un qui s'appelle Youssef, qui vient dans leur tablier, il boit du vin, il ne croit pas, il est athée. Et en fait, il est dans exactement les mêmes codes qu'eux. Il a grandi comme eux. Mais. Et on va lui faire sentir qu'il est différent.
Ben justement, écoute. Alors, écoute, cet autre. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a aussi des journaux qu'on connaît très bien, des journaux qu'on lit tous, et qui ont fait des enquêtes suite, justement, à l'apparition du livre. Alors, il y a Mehdi, 25 ans. Est un gestionnaire en patrimoine multidiplômé. Hein. Il prépare également son départ de France à l'horizon 2025 pour le Maroc. C'est une accumulation de propos qui nous attaque. Je ne regarde plus la télévision, dit-il, parce que c'est écœurant. Le traitement médiatique des musulmans à chaque fois qu'il se passe un événement ou un fait divers, se désole-t-il. Alors écoute bien, le départ de France leur permettra de pratiquer leur foi comme ils l'entendent. Alors, parce qu'après il reprend les autres.
Oui,
mais parce que j'ai pas lu. Attends, parce que je voudrais lire aussi. Écoute bien. Faut que j'aille. Voilà. Après, tu vas comprendre, parce que tu viens de dire quelque chose qui est très important concernant l'alcool, etc. Bon, alors, il y a Naomi. Naomi, qui a été interviewée par une chaîne de radio très connue, d'info, très connue, hein, voilà, française. Alors, elle dit. Alors, radio. Alors, ils disent ne plus supporter Naomi, entre autres, hein, plusieurs, ne plus supporter ce sentiment permanent d'être montré du doigt. À 25 ans, la jeune femme d'origine maghrébine et subsaharienne, titulaire d'un bac plus 5 en ressources humaines et musulmanes, et musulmane pratiquante, elle est musulmane et pratiquante, confie ne plus se sentir à sa place dans son pays de naissance. On a ce sentiment de pression constante. C'est compliqué de pratiquer sa spiritualité ici sans être stigmatisé constamment. C'est épuisant mentalement. Ce ne sont que des micro-agressions sur les réseaux sociaux. On n'est vraiment pas apprécié ici, donc je ne vois pas pourquoi je resterai. En fait, elle veut partir aussi, et c'est là où on parle de Mehdi aussi. Et écoute bien, pour rejoindre ce que tu disais, le départ de France leur permettra de pratiquer leur foi comme ils l'entendent. Naomi a choisi de s'installer au Japon, tu vois, même pas retourner dans son pays d'origine, où elle a fait plusieurs allers-retours. Elle est en train d'apprendre la langue et pense que son voile ne suscitera pas de réaction là-bas. Au Japon, je vais le porter, affirme-t-elle. J'ai été très étonnée de leur ouverture par rapport à l'islam. Mehdi, pour reprendre le jeune homme de tout à l'heure, 25 ans, lui a choisi le Maroc, d'où viennent ses parents, pour se sentir plus libre dans sa pratique de la religion, même si la laïcité à la française protège la liberté de culte. Je peux pratiquer ma religion comme je veux. Personne ne va me regarder là-bas parce que je prie. Si je jeûne, personne ne va me poser la question idiote. Comment est-ce que tu peux avaler ta salive? On ne va pas m'y demander toutes les deux minutes pourquoi t'as pas bu d'alcool. Quand il y a des anniversaires, etc. Enfin, voilà.
Oui, voilà. Mais justement, donc là, justement, vous abordez deux notions. La première, c'est vous aviez dit un mot, enfin, c'est le témoignage de la dame qui dit micro-agression ou micro,
Naomi.
Je sais plus, mais c'est micro quelque chose. Oui. Micro, mais tout à l'heure, je vous ai parlé.
Micro-agression.
Alors moi, je vous ai
sur
dit
les réseaux
érosion.
Sociaux.
Érosion. Quand je vous ai dit érosion.
C'est ça.
Si vous voulez, Vanessa, une grande roche, une falaise, par exemple, une grande roche, elle est érodée par des petits grains de sable. Elle est érodée, mais elle finit par façonner. Sa forme change. C'est des micro-ondes. Donc effectivement, il n'y a pas quelque chose de très violent, où il n'y a pas que en one shot, c'est-à-dire en un coup, mais c'est quelque chose de continu. C'est des mini-grains de sable, mais tous les jours, toutes les heures de la journée. Eh bien écoutez, c'est une érosion. Au bout d'un moment, vous craquez. Donc ça, c'est la première mention que je voulais dire. C'est que, oui, en fait, on le voit pas. C'est pas, enfin, si on le voit, mais c'est pas quelque chose de trop violent. Mais cumulé, ça fait beaucoup de mal. La deuxième notion que vous avez évoquée, justement sur le témoignage de la dame, c'est très intéressant. À part au Japon, vous savez, là, moi j'ai côtoyé les Japonais, je connais, c'est une société que je connais très très bien aussi. C'est une société qui est très xénophobe, faut le savoir. C'est une société vraiment qui est xénophobe, mais xénophobe, c'est-à-dire ils ont même du mal avec l'occidental, ils n'ont même pas d'idéalisation.
De qui tu parles?
Des Japonais.
Le Japon.
C'est une société très xénophobe. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est qu'on ne vous le fait pas sentir. En fait, on vous s'accepte. Leur sentiment à l'intérieur, ils ont un sentiment quelque part de supériorité ou de quelque chose. Mais on vous le fait pas sentir. On vous fait pas sentir comme un espèce de citoyen, citoyen, parce que vous vivez au Japon, de seconde zone. On vous le fait pas sentir. On vous fait pas sentir cette xénophobie. Les montées de Zemmour et tout ça, en fait, qui ont démocratisé une espèce de pensée très xénophobe, pas masculiniste, enfin, passant, mais plein de choses. En fait, ça a décomplexé les gens. Et en fait, il y a des propos qui, avant, n'auraient pas du tout passé. Et bien maintenant, en fait, on les dit beaucoup plus facilement en société.
Sous couvert de liberté d'expression, entre guillemets.
Bombardé de grands emplacements, que certains, enfin, des collègues ou des gens que je fréquente, hein, qui sont pas du tout, ils sont plutôt de gauche, ils sont pas du tout xénophobes, ils disent, oui, mais quand même, tu peux pas nier, le grand remplacement. En fait, en gros, certaines choses, mais vraiment très xénophobes, que dans la tête et que finalement en fait ça s'est banalisé, tellement démocratisé que maintenant en fait avant le Front National faisait peur, c'est-à-dire les gens descendaient massivement dans la rue, mais vraiment remplissaient les rues pour dire ah non, faut que vous alliez voter contre Le Pen. Maintenant le nom Le Pen ne fait absolument pas peur. voire on pense que c'est une option complètement crédible, y compris dans la communauté musulmane, hein, malheureusement, autour de moi, ils disent, ouais, ben, autant voter pour, et comme ça, ça bougera. Mais parce que s'il y a une pensée xénophobe, islamophobe, qui s'est un peu trop démocratisée, qui s'est un peu trop installée. Et comme vous dites, il y a peut-être du maladroit, mais moi, le maladroit du « est-ce que tu bois, ça t'a salive
maladroit, ouais.
Mais écoutez, c'est pas grave, je suis pas là pour juger les gens. Je vais dire que la Colette, avec laquelle je travaille depuis 7 ans, 8 ans, tous les mois de Ramadan, elle me dit, mais ça va pas trop, c'est pas trop dur, c'est pas, ça va, tu tiens le coup. Oui, elle me dit premier jour, le deuxième jour, mais en fait, tous les mois, tous les ans, en fait, c'est la même chose. Ah, je pourrais pas, mais oui, mais au bout d'un moment, tu passes à autre chose. Je sais pas, moi, je supporte pas les huîtres. Mais je veux dire, mais je passe pas, je vais pas dire à quelqu'un, ah mais c'est pas trop dégueulasse de manger des huîtres, mais t'arrives quand même à les manger, alors que c'est dégueulasse, ça ressemble à de la morve ou je sais pas. Mais imaginez qu'à quelqu'un, chaque fois que de façon régulière, à Noël, tous les Noëls, je leur ressors la même rengaine. Mais au bout d'un moment, il va péter un câble. La personne dit, mais Kamel, arrête de la ramener avec tes huîtres. Mais écoutez, c'est complètement ça.
Ouais, mais je retrouve. Non, mais j'entends, tu vois, ton témoignage, il est clair, hein, il abonde dans témoignages que j'ai pu recueillir,
suis,
oui.
Comme je l'ai dit, parce que je suis peut-être ce type de population qui considère le départ. Moi, il y a
Et toi, tu y songes?
Moi, c'est les parents. C'est les parents, j'ai envie de proximité. En fait, mes parents ont vieilli. J'ai une espèce de responsabilité avec les parents.
Oui, oui.
Bon, ils ont des bobos, de la vieillesse, ils ont des trucs. Maintenant, d'être que je sois un peu plus présent.
D'accord.
Et oui, c'est un sacrifice, honnêtement.
Oui. Et tes parents vivent où?
Alors,
il y a
les miens et les beaux-parents. En fait, entre la France, parce que mes parents et beaux-parents, c'est des couples séparés, c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Non,
en gros, entre la France et l'Algérie.
D'accord.
Mais en fait, l'Algérie, c'est 2 heures de vol, si vous voulez. Je pars à Charles de Gaulle, je prends un billet et à 23 heures.
Est-ce que tu as songé, toi, de partir? Je ne parle forcément la destination, le pays d'origine, tout ça, mais partir ailleurs. Tu y songes? D'accord.
Parce que je me dis, mais est-ce que finalement je ne serais pas plus heureux ailleurs?
C'est fou, hein, parce que il y a 15-20 ans en arrière, j'entendais pas de jeunes tenir ce genre de discours. Hein. Tous leurs projets, c'était ici. C'est ici. Non, mais c'est pas faux. Ne pars pas, Kamel, on a une petite pause. 01 53 48 3000, un petit peu de patience, on revient juste après.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48 3000, toujours les témoignages concernant ce livre, mais vraiment c'est une explosion ce livre. C'est vraiment, moi je vous invite à le lire. Moi je vais essayer de me le procurer le plus rapidement possible pour le lire. La France. La France, la France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Vous voyez, hein? Alors, avant de reprendre avec notre ami, je le vois plus. Alors, donc, je continue. Mais globalement, la première raison avancée donc par ces candidats à l'exil, c'est avant tout d'en finir avec les discriminations. Le plafond de verre qu'ils perçoivent, affirme Redouane, directeur marketing pour une multinationale française au Maroc. Il est parti pour des opportunités professionnelles et pour pouvoir apporter mes compétences à un pays qui a vraiment besoin de moi, confie-t-il à 33 ans. L'expatrié gagne un peu moins de 5000 euros par mois, une opportunité qu'il ne se voyait pas obtenir en restant en France. Chez tous ces Français déjà partis ou sur le départ, revient en effet souvent un sentiment de gâchis et de tristesse. C'est un regret, parce que j'aurais bien aimé pouvoir apporter plus à la France, pouvoir y travailler, pouvoir développer des choses pour améliorer le pays, avoue Redouane. Mais au final, cette atmosphère-là a fait que je vais apporter mes compétences à d'autres pays. et ils n'envisagent pas une seule seconde de revenir vivre en France. Voilà le constat. C'est terrifiant, hein. Moi, je vous dis, moi, quand j'ai lu, j'ai passé ma journée à m'informer, à lire un petit peu autour de cet ouvrage, et puis j'ai été chercher aussi d'autres témoignages, sourcés bien sûr toujours. Eh bien, c'est affolant. On m'aurait dit ça il y a 15 ans, 20 ans en arrière, j'aurais dit non mais arrêtez, c'est de la blague. Ben non, c'est la réalité. Les jeunes aujourd'hui font des études, ils ont des diplômes, ils sont multidiplômés, hein, et néanmoins ils veulent partir. Voilà, parce qu'ils se sentent, ils sentent qu'il y a une atmosphère qui est pesante, hein, concernant les musulmans, leur nom, discrimination, etc. C'est vrai que quand les médias, ils sont pour beaucoup, mais pas que, parce que bon, il y a certains représentants de certains bords politiques qui s'expriment régulièrement dans les médias et qui ne prennent pas du tout de gants, quoi, enfin, et qui ne font pas dans la dentelle. Hein, qui vont directement. Voilà, 01 53 48 à 3000. Voilà. Alors, on n'a plus. Alors, Kamel, je ne le vois plus. Je ne vois plus. J'ai Hossine. J'ai Shemseddin juste après. Et Alpha aussi. Bonsoir, Hossine, de Paris.
Bonsoir, ça va, vous allez bien?
Oui, très bien. Et toi, Hossine?
Eh ben,
est-ce que tu peux baisser juste le son de ta radio?
Eh ben.
Voilà. C'est bon? Hossine. Ben, je vois plus non plus. Alors, pif paf pouf, on a Shemseddin de Paris. En attendant. Shemseddin, bonsoir.
Bonsoir, tu vas bien?
Ben écoute, très bien. Et toi, Shemseddin?
Oui, ça fait longtemps.
Bah écoute, oui, ça fait longtemps, hein, ça me fait plaisir. T'entends, j'espère qu'on va pas te couper là.
Hein. Non, je pense pas.
D'accord, je t'écoute.
Je rejoins totalement le monsieur, enfin le jeune homme qui a parlé en premier.
Oui, Kamel.
Oui, parce que moi je suis victime de ça en ce moment et du coup en fait je voulais t'appeler par rapport à ça. Ah. Et là, vu que j'ai entendu le sujet de ce soir, je me disais mais c'est bingo, en fait je vais l'appeler, je vais lui en parler.
Parfait.
En fait, moi je suis en reconversion en ce moment, donc j'ai démissionné de mon poste initial. Et je suis en reconversion, du coup j'ai des entretiens, je passe des entretiens en ce moment, enfin, comme quelqu'un qui cherche un travail, quoi. Mmh. Et du coup, à chaque entretien, pas chaque entretien non plus, je vais pas mentir, sur les 5 entretiens que j'ai par semaine ou tous les 7-8 jours, il y a au moins 2 recruteurs qui bug sur mon prénom. Et qui me demande avec un air, tu sais, je sais pas comment dire, un air curieux mais pas curieux du tout, enfin tu sais, un air qui voulait
suspicieux.
Voilà, mais genre suspicieux, mais dans, enfin, franchement vicieux, quoi, je vais dire, je vais même aller dans
carrément.
Du coup, il me dit ah, là, c'est quelle origine, Shemseddin, je connais pas et tout, moi je lui dis, tu vois, moi je suis fier de mes origines, donc je lui en parle. Je lui dis bah écoutez, ma mère elle est algérienne et mon père il est portugais, quoi, c'est donc va leur dire algérien portugais, enfin c'est vraiment le combo.
Ils retiennent algérien pour certains.
Ouais, et portugais aussi parce que c'est la Méditerranée. Donc du coup ça,
ouais, bon,
ça
peut-être que ouais, c'est
plus... ouais. Et sans surprise, à chaque fois qu'on me demande mes origines sur le poste auquel j'avais postulé, et en plus je suis qualifié pour, j'ai l'expérience pour, etc., et j'ai les diplômes pour, jamais on me rappelle, tu vois,
c'est fou.
Et c'est venu souvent, c'est pas une fois ou deux fois, tu vois, c'est à chaque fois. Donc au début je me disais bon bah peut-être qu'il a pris quelqu'un de mieux, enfin je sais pas. Après je me disais bah peut-être que je me suis mal débrouillé lors de l'entretien, peut-être que j'ai trop stressé, peut-être que, et puis ça revient 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, tu vois. À chaque fois qu'on me demande mon prénom, et ben derrière on me demande mon origine. Déjà il n'y a pas à demander les origines des gens comme ça, où on n'est pas encore collègues, tu vois. Même si on est encore collègues, peut-être que j'aurais pas envie de te le dire.
C'est déplacé, bien sûr.
Bien sûr. Et encore, s'il me parle juste de mon prénom, ok, mais derrière, on parle de mon prénom pour me demander quelque chose d'autre, tu vois. Il y a ça, et il y a aussi une fois où j'ai participé à une réunion d'information. Donc, tu sais, c'est une réunion d'information pour un poste, donc on convoque plusieurs personnes en même temps. Et à la fin, on demande des documents, donc aux personnes et tout. Donc, on demande des documents. Et on m'a demandé, moi, mon casier judiciaire. D'accord ? Donc je donne, parce que je suis français, je suis né en France, donc tu sais quand tu demandes sur Internet,
bien sûr,
donc,
sinon,
je suis là instantanément. Donc je l'ai fait dans la foulée avec eux, donc je l'ai eu instantanément, je leur ai donné par mail. Et par la suite, on était en pause, et du coup je demande aux gens avec qui j'étais, je leur ai dit, on t'a demandé toi aussi ton casier judiciaire ? Madame a dit non, pas du tout, c'est une Française. Du coup je demandais à une autre personne, elle me dit non, pas du tout, c'est une Française, et une autre encore personne pour être sûre, et c'était une Française aussi, on ne lui a pas demandé. Et je crois que j'étais le seul arabe dans le groupe, tu vois.
Oui, oui.
Voilà.
Ah oui,
bah... Donc, voilà. Donc après, il y a le droit de poser des questions aussi.
C'est
tu
clair qu'il y a de quoi se poser quelques questions. C'est sûr que si on demande pas la même chose à tout le monde, il y a un problème là, oui, effectivement. Ouais.
Hein. Oh, oui. C'est très frustrant parce que, tu vois, je...
Alors, tu regardes. Écoute bien. Alors, en même temps, je lis quelques... Tu vois, des témoignages. Hein. Alors ça, ils sont visibles. On peut les retrouver, c'est sourcé. Alors... Pif, paf, pouf, un témoignage. Au bout de 70 CV, sans aucune réponse, pas même une convocation pour un entretien, Abdel a compris. Alors, Abdel est originaire d'Afrique subsaharienne. Sur ses photos, il dit... Donc il y a les photos, on voit la couleur de sa peau, il s'appelle Abdel, bon, il dit, je cumulais les handicaps, c'est ce qu'il dit, noir, musulman.